RCF.
Et on s'intéresse à la représentation du Christ dans la peinture et notamment à celle qu'on appelle le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ souverain, maître de tout. Christ Pantocrator fréquent dans l'art byzantin, Christ généralement représenté assis sur un trône de gloire tenant le livre des Saintes Écritures dans la main gauche et esquissant de la main droite un geste de bénédiction. Et cette représentation, c'est ce qui fait le cœur de votre ouvrage, Marina Copsidas. Bonjour.
Bonjour.
Vous consacrez un livre intitulé « Le Christ Pantocrator » aux éditions de l'Harmattan. Comment est-ce que la représentation du Christ a changé à travers les siècles? On peut essayer de dresser une sorte de chronologie à travers différents exemples, je vous propose. On part faire un tour du monde pour voir toutes les réalisations de ces représentations du Christ, Christ Tout-Puissant. Alors, direction les fresques des catacombes.
Oui, alors effectivement, pour étayer mon propos dans ce livre, j'ai proposé 8 représentations du Christ Pantocrator. Voilà, il y en a 8.
On trouve des illustrations.
Voilà, donc la première, effectivement, c'est celle de ce que j'aime beaucoup parce que je la trouve d'une certaine façon très moderne. Dans la simplicité du trait, les deux couleurs qui se complètent, le bleu du ciel et le brun du sang du Christ de la Passion. Et cette représentation est la première qu'on connaisse du Christ Pantocrator et elle est dans une catacombe qui s'appelle la catacombe de Commodille.
Et elle date de quand alors?
Elle date du 5e siècle. Et ce qui est important, c'est de voir que le Pantocrator, dans sa définition, est plein et entière. Le bleu du ciel, qui est repris avec les étoiles. Effectivement, des étoiles qui sont donc à 8 branches, qui sont formées de la croix et du signe Hi, Christos, en grec. Et donc, c'est une très belle représentation, d'abord parce que elle est dans les premiers siècles, évidemment, où le christianisme se développe et affirme également sa foi au travers des conciles, premier concile Nicée 325, dont on va fêter les 1700 ans l'année prochaine. Œcuménique, bien sûr, puisque c'est Orient et Occident qui, d'une seule voix, proclament leur foi dans le Christ vrai Dieu et vrai homme. Et donc, c'est cette représentation symbolique qui se retrouve à Rome.
Ensuite. Ça, c'est la toute première.
C'est la toute première. Là, ensuite, celle que j'ai représentée, qui est très importante, c'est une icône qui est au monastère Sainte-Catherine, qui est celle qui est représentée le plus souvent.
Au Mont Sinaï.
Qui est donc, je dirais, l'image type de l'icône du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est représentée, elle est supposée être un portrait du Christ qui aurait été fait à travers un miracle, qui est un linge qu'on appelle le mandilion, que le Christ aurait appliqué sur son visage quand quelqu'un voulait faire son portrait. Et ce linge, ce mandilion, se serait trouvé à Édesse, entre les mains d'un roi, et il aurait été racheté par l'empereur byzantin et ramené triomphalement à Constantinople.
Alors c'est ce qu'on appelle le mandilion, c'est ce qu'on appelle une icône non faite de main d'homme. Donc c'est
exactement
vraiment le visage,
voilà,
du Christ,
c'est ça,
imprimé.
C'est exactement, miraculeuse finalement. Alors on a une tradition effectivement en Occident du voile de Véronique. Exactement.
Quelle différence avec le voile de Véronique, par exemple, justement?
Alors, le voile de Véronique, je crois que c'est au moment de la Passion, quand le Christ est sur le chemin du Golgotha, et qu'effectivement, on lui tend ce voile, et donc là, les deux traditions se recoupent et se complètent, en quelque sorte. Et donc, cette voile, qui donc est en Orient, est repris, récupéré, et va servir, donc, de modèle pour cette fameuse icône du Mont Sinaï. Alors, elle est quand même, il faut savoir que le monastère de Sainte-Catherine est quand même exceptionnel parce qu'il date du 5e siècle. Que, ce qui m'a frappé quand je l'ai visité, c'est qu'à côté de l'icône du Christ, se trouve celle de Saint-Pierre. À côté. Et le caractère particulier, c'est que ce monastère n'a subi aucune invasion. Aucune destruction. Il est tel qu'à l'origine. Et il y a effectivement alors une très belle fresque de la Transfiguration dans l'église. Et Ce modèle du Christ Pantocrator va inspirer après les très belles représentations byzantines que l'on trouve à Sainte-Sophie et également qu'on va retrouver aussi dans ces merveilleuses et magnifiques représentations en Sicile, qui sont Montréal, Céphalou et Palerme. Et j'allais dire, tout ça, c'est un ensemble absolument grandiose du Pantocrator.
Tout cela à partir de ce qu'on appelle le mandylion, donc qui signifie en grec le mouchoir, puisque oui. On le disait, hein, c'est une image, on a aussi appelé ça l'image d'Hédès, qui a pris la marque du visage du Christ, la sainte face, en fait, tout cela est lié. Alors, le monde orthodoxe considère que c'est la première icône. Il y en a eu d'autres par la suite, vous le disiez, ça a permis de créer une sorte de modèle, en quelque sorte, dupliqué par les artistes. Si on s'arrête sur les mosaïques de Ravenne, au nord de l'Italie, quelle différence ?
Alors, les mosaïques de Ravenne sont, comment dirais-je, l'élaboration d'un langage, parce qu'au début, on ne sait pas trop, on représente la croix glorieuse. Et ce qui est très important, il y a la basilique de Sainte Vitale, par exemple, qui est tout à fait, que je représente d'ailleurs, qui est effectivement ce propos emblématique. Il y avait aussi Gala Bastida, effectivement, et aussi un monument à Ravenne où on représente le Christ imberbe comme un jeune homme. Et effectivement, la passion va nous montrer effectivement une autre dimension du Christ que simplement ce jeune homme assis sur le monde.
Alors là, on est dans le premier millénaire et à ce moment-là, il n'y a pas encore cette opposition dont on parlait précédemment entre Orient et Occident.
Oui, parce que là aussi, justement, c'est une des représentations que j'ai voulu donner dans mon ouvrage, c'est celle du portail de Chartres, c'est-à-dire le Christ en gloire.
La cathédrale de Chartres.
Voilà, la cathédrale de Chartres. Le Christ en gloire est une autre expression artistique. Mais sur le plan scripturaire, elle est la même que le Christ Pantocrator. Là, c'est le Christ en gloire, effectivement, qui est dans la mandorle et qui est là pour bénir l'humanité. Donc, c'est effectivement une représentation avec le Christ incarné et transcendant.
Donc il y a un véritable enjeu, peut-être qu'on n'a pas bien mesuré, sur les images, justement, sur la représentation du Christ.
Oui, alors là, je voudrais citer un de mes professeurs de l'Institut catholique, professeur de philosophie, qui s'appelle Philippe Serres, un catholique, et il écrit « La corruption de l'image est un manquement à la foi. Il est nécessaire de reconnaître la faute d'une partie de la tradition apostolique dans le laxisme iconique, laxisme qui nous a certainement conduit à une importante dégradation de la foi. » Il ajoute, il y a une conversion par l'image comme il y a une perversion qui découle de l'image.
Pour ceux qui l'observent, pour ceux qui la vénèrent, pour ceux qui adorent ces images, là, il y a une différence entre le monde orthodoxe et le monde catholique.
Bien sûr, parce que pour le monde orthodoxe, l'icône est indissociable de la liturgie. Vous ne pouvez pas avoir une liturgie orthodoxe sans icône. Ça n'existe pas.
Pour quelle raison ?
Parce que, j'allais dire, c'est pas, on n'est pas justement alors dans le monde du judaïsme où il n'y a pas de représentation, la représentation est normalement interdite, ou dans l'islam, nous sommes dans l'incarnation.
C'est ça qui légitime que évidemment. Il y a une représentation possible et même souhaitable.
Alors, dans la liturgie, quand il n'y a pas une fête particulière qu'on va célébrer avec l'icône de la fête, par exemple le baptême du Christ, dans les autres jours, il y a toujours l'icône, évidemment, du Christ, évidemment l'icône de la Vierge Marie et l'icône de l'Anastasis.
Mais qu'est-ce qu'on vénère à travers ces icônes ? On se doute bien que ce n'est pas l'objet qu'on vénère, mais comment ça se passe dans le cœur du croyant ? Vous êtes vous-même orthodoxe, donc qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre regard, quand vous êtes proche et que vous embrassez même une icône ?
C'est une présence. C'est une présence. Alors j'ai oublié quand même aussi, excusez-moi, de préciser, comme c'est important, il y a aussi toutes les icônes des saints. et qu'on vénère, bien sûr. Donc, les saints que l'on vénère sont représentés selon la tradition, selon effectivement leur parcours de vie, mais toujours effectivement avec aussi les mêmes règles techniques de dématérialiser en quelque sorte et montrer effectivement qu'ils sont au-delà de plus simples personnes du quotidien.
La place du regard dans ces icônes, à la fois le regard peint, le regard écrit et le regard du croyant.
Alors, certains théologiens orthodoxes ont dit que ce n'est pas nous qui regardons l'icône, mais c'est l'icône qui nous regarde. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a comme une... Il y aurait un dialogue où je dirais que l'icône nous invite à la prière.
Ce n'est pas de la magie.
Ah, c'est surtout pas de la magie, c'est de l'invitation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle effectivement de la présence indiscutable et de l'icône pour la liturgie, mais également, bon, ben, les croyants orthodoxes ont dans leur chez eux un petit coin avec l'icône pour prier.
Merci beaucoup, Marina Kopsidas, orthodoxe, auteure d'un livre justement sur la gloire du Christ, publié chez L'Harmattan. On vous retrouve demain.